soir, c'est-à-dire au premier cours de lundi matin, nous avons eu une difficulté de compréhension de la notion de création ex nihilo, et qui est cependant la notion de base du récit de la Bible et de toute la tradition juive à ce sujet. Alors nous allons reprendre ce problème et commencer déjà aujourd'hui à apprendre la réponse que nous donne la tradition de la Kabbalah à ce sujet.
Et ma question de Kitov.
Et on y arrivera, n'aie pas peur. Bien. Alors, cette notion de Belia. signifie donc, dans sa définition de base, Belia, Yesh, Meaï. Yesh, Meaï, ça signifie que ce qui est, Yesh, il y a, apparaît, mais à partir de rien. Aïn, néant. Il y a à partir de il n'y a pas. Et ça correspond en français à l'expression donc latine ex nihilo. Et nous avons vu donc lundi matin, assez abondamment, qu'une telle expression ne fait pas partie, une telle catégorie ne fait pas partie des données de la raison, ni non plus de l'expérience de la mentalité culturelle contemporaine, c'est-à-dire scientifique, ou scientiste si vous voulez, mais d'une façon générale scientifique elle-même. Et alors, à partir de maintenant, j'embraye sur la notion que va substituer la tradition de la Kabbalah, et qui est, que vous ne trouverez pas dans les textes sous cette forme, enfin, une sorte de stratégie d'exposition pour aller plus rapidement à l'essentiel, et qui sera Beria. Yesh, B-A-I. Et je m'explique tout de suite. Ce sera l'objet de la première partie du cours ce matin. C'est-à-dire, ce qui nous est incompréhensible, c'est l'apparition de l'être à partir du néant. Je veux dire, du point de vue des catégories d'évidence de la raison. Cela contredit fondamentalement le principe d'identité. C'est bien clair jusque-là. Je pense que tout le monde était lundi matin. Bon. Mais, et comme nous l'avons dit aussi, c'est parce que nous n'avons pas expérience de cela. Nous n'avons pas de référence dans une illustration d'expérience de ce que peut être une telle réalité. Quelque chose apparaissant dans le néant. Ce quelque chose n'étant pas rien, puisque c'est le monde tout entier. Mais peut-être nous verrons qu'en réalité nous avons une telle expérience. Mais nous le verrons plus tard. En tout cas, il y a une expérience qui peut nous être familière, je veux dire qui peut être une illustration suffisamment familière, c'est la disparition de l'être. Même si nous n'avons pas expérience de l'apparition de l'être, nous pouvons avoir référence de l'expérience de la disparition de l'être. Et ensuite, nous reviendrons à la première définition, peut-être avons-nous quand même expérience de l'apparition de l'être. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Et c'est ce que nous appellerions la néantisation. Nous avons expérience de la néantisation. Nous avons expérience de disparition de l'être. Vous vous rappelez, au Moyen-Âge, il y avait eu toute cette querelle sur la notion de, oh, j'ai oublié comment ça se dit en français, vous allez m'aider, de création spontanée, non, comment on dit, génération spontanée. Vous vous rappelez de cette discussion où Pasteur a été mêlé, etc. Et il est fort possible que, déjà depuis ce temps-là, ou peut-être plus récemment dans le temps culturel contemporain, que certains auteurs ou certaines thèses mettent en question cette négation de la génération spontanée, mais encore une fois, ce sont des hypothèses. L'esprit humain est capable de formuler la cohérence d'une hypothèse, même contredisant l'expérience. Donc, le fait que vous pouvez, je n'ai pas d'exemple à vous donner à la mémoire, mais le fait que vous pourriez trouver dans la littérature contemporaine l'affirmation de la notion de génération spontanée, malgré tout, si vous voulez, le principe de la culture contemporaine est de le nier. En tout cas, il est bien évident que nous avons expérience de disparition de l'être. À moins d'admettre, ne vous affolez pas de l'exemple que je vais donner, parce que nous aurons à nuancer tout cela tout à l'heure, à moins d'admettre que la personne humaine n'est rien, qu'elle se borne à se ramener à la vie biologique de son corps, il est évident que la disparition d'une personne nous donne un exemple fondamental de néantisation. Vous savez que, selon la tradition juive, il s'agirait que de la néantisation par rapport à la manière d'être dans ce monde-ci. est que pour la tradition juive, la mort n'existe pas dans le sens habituel, dans le sens que ce serait le terme définitif de l'existence d'une personne vivante. Et nous savons, je le dis ça un peu sous forme d'image, que la tombe n'est pas un terminal, mais que c'est la porte qui ouvre sur autre chose. Et ça, c'est d'autre part l'enseignement de la tradition juive qui se rattache par un biais quelconque à notre problème. Mais il est bien évident que nous avons expérience dans l'histoire de notre monde refermé sur lui-même, de ce monde-ci refermé sur lui-même, de néantisation, qui se dit en hébreu « Beria, Aïn, Neyesh », c'est-à-dire « néant » à partir de « Ilia », à partir de l'être. Alors que notre notion « Beria, Yesh, Me'aïn » est incompréhensible à la raison cependant doit accepter l'évidence de l'expression « Beria, Aïn, Me'yesh », parce que de cela, nous avons expérience. Et il suffit de se référer à toute mort, à toute expérience de mort. Encore une fois, c'est pour que je nuance tout de suite, selon la tradition juive, la mort n'est pas ce que l'on croit être, c'est un changement de vêtements, c'est un changement de manière d'être, mais comme ce n'est pas expérimentable, nous nous relierons à ce principe sous forme d'article de foi. Mais dans tous les cas, dans l'expérience brute, eh bien, il y a disparition d'être. Pas seulement, vous rappelez l'expression « rien ne se perd, rien ne se crée ». Pas seulement qu'une synthèse se défait en éléments, et donc il n'y a rien qui a disparu, les éléments sont là. Mais en réalité, la personne qui était présente grâce à cette synthèse, la personne, elle, a disparu, en tout cas de ce monde-ci. Elle se cache quelque part, peu importe, c'est un autre problème, c'est un autre sujet du point de vue de la tradition. Simplement, admettons, puisque j'ai parlé de cela, par postulat, parce que les notions qui sont objets de connaissance par la foi ne peuvent pas se décrire en analyse objective, puisque ce sont des expériences subjectives. Et c'est que, je vous cite simplement une des prescriptions du rite de la tradition juive par rapport à la mort, c'est qu'il est interdit de pleurer à côté d'un mort. C'est interdit, et on le sait peut-être peu, on a le droit de pleurer, mais un peu loin, dans une autre pièce, dans une autre maison, mais pas à côté de lui. Parce qu'à côté de lui, ça signifierait qu'on réagit comme s'il était mort, or il ne l'est pas. Sa personne n'est pas morte, c'est son corps qui est en arrêt biologique. Est-ce que vous comprenez la différence? Or, comme il y a des étapes dans le temps, l'éloignement ne se fait pas tout de suite, l'éloignement se fait par étapes. Dans la première étape, l'éloignement est très proche. Je ne veux pas rentrer dans ce problème parce que c'est une autre question, mais le fait de, par exemple, un autre rite, il est interdit de parler à côté d'un mort avant l'enterrement d'autre chose que lui ne connaîtrait pas dans sa mémoire ou s'il s'agit des problèmes pratiques de l'enterrement. Mais de parler d'autre chose, c'est interdit parce que c'est un mépris pour cette personne qui est là mais qui ne peut pas intervenir, qui ne peut pas s'exprimer. Et vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? Enfin, selon la tradition, il y a une seule différence entre un mort et un vivant, c'est que le vivant ne peut pas parler dans notre monde. Et par conséquent, il est vivant, ce mort. Donc, j'aurais des lapsus comme ça, mais c'est pas grave, c'est notre temps. Vous comprenez le problème là. Et c'est pourquoi c'est une mitzvah, c'est une bonne action de citer des paroles de mort en son nom, quelque chose qu'il aurait dit ou qu'il sait en son nom, parce que ça lui permet de parler au moment où celui qui le cite parle. Oui, dans l'ordre de la vertu, de la piété. Bien, je vous le dis donc, cela sous forme de postulat, puisque nous avons parlé de ce problème. Mais dans tous les cas, expérience de néantisation, nous avons. Et donc, cette notion-là nous sera beaucoup plus évidente rationnellement que la première. Et c'est de là que l'analyse de la Kabbalah va partir. Est-ce que nous sommes déjà d'accord là-dessus? Parce qu'on ne peut pas voir la suite s'il y a réticence au niveau du postulat. C'est-à-dire, nous allons prendre comme postulat que cette expression néant à partir de l'être, néant à partir de l'être ou néantisation par rapport à la manière d'être dans la masée, dans notre monde, cela est une notion expérimentable, donc dont la raison peut garder l'évidence. Mais le glissement que nous avons opéré à partir de Beria, Yesh Me'ayin, qui nous est incompréhensible, on va d'abord nous proposer une notion transitoire qui est Beria, Ayin Me'yesh. Et cette notion de Beria, tout le monde comprend en hébreu maintenant?
de cette notion de Beria à In Meyesh va nous mener à la notion fondamentale de la Kabbalah, qui est Beria Yesh Be'ain. Alors là, je vais commencer la description de cette notion-là. Et bien entendu, ce que je vais essayer d'expliquer au tableau, c'est sous forme d'image. Mais c'est une image intellectuelle qui explique tous les processus dans la réalité dont nous aurons à parler dans le problème de l'apparition à l'être au niveau de la notion de création ex nihilo. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Et bien voilà, c'est que là, le point de départ, et sur lequel nous devons réfléchir attentivement, c'est que ce n'est pas le néant qui précède l'être, mais c'est l'être qui précède le néant. Et la création est un processus qui apparaît dans l'être absolu qui est là de toute éternité. C'est le monde qui a un commencement, pas l'être. Le monde en tant qu'être recevant l'être. En tant qu'être qui ne peut être que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait être. Vous vous rappelez l'analyse de lundi. Mais l'être qui donne l'être, lui, est non seulement préexistant au monde, mais de toute éternité préexistant au monde, ou à tout monde. Donc, voilà l'évidence de laquelle l'hébreu parle, et qui est l'évidence radicalement opposée, inverse, de l'évidence de la philosophie grecque parlant de cette notion de création pour qui le néant précède l'être. Là, je vais un peu nuancer pour que vous recodiez à des analyses que vous avez peut-être lues ou entendues, je vais d'abord formuler ce postulat. C'est l'être qui précède le néant. Et que vous trouviez chez certains mystiques que cet être qui précède le néant est un être de tel infini absolu qu'on l'appelle néant par rapport à l'être qui va apparaître dans le monde, c'est une donnée d'ordre mystique claire d'ailleurs et évidente, Ken. Mais du point de vue de l'analyse rationnelle que nous essayons de récupérer, il est bien évident que ce néant antérieur dont nous parlons n'est plus le néant dont nous parlons habituellement rien, mais un être tellement total que par rapport à moi, créature, il est tellement au-delà de ma manière d'être que pour moi, c'est mon néant d'être à moi. J'arrête là cette analyse parce qu'il ne faut pas trop de paradoxes à la fois. Mais il faudrait là, à partir de ce moment, s'exprimer en langage mystique poétique. Enfin, ce n'est pas contradictoire, c'est ce que je vais vous dire. Que cet être antérieur au néant où procédera l'être du monde, soit appelé parfois chez les mystiques néant, nous pouvons le comprendre. Mais pour la commodité de l'expression, je vais l'appeler être. Et c'est plus que Yesh, c'est Havaya. Alors là, je vais vous expliquer. Chaque fois que j'écrirai les noms avec He, je mettrai un kouf, parce que nous n'avons pas le droit d'effacer un nom kadosh écrit.
Alors, je n'ai pas écrit Havaya, mais Kavaka.
Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le terme qui dit l'être absolu, et cet être absolu précède le processus que je vais décrire. Et voilà. Pour qu'il y ait place pour un monde, il faut donc que Dieu, en tant que l'être absolu antérieur au processus de création, se retire d'un point de son être pour laisser place à la place du monde. Parce quelle était la difficulté? Que si Dieu existe, comment penser la possibilité de l'existence d'un monde? Si Dieu existe, il est tout. Et donc, où loger un monde? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Bon. Et pourquoi je dis si Dieu existe? Bien sûr, c'est notre foi que Dieu existe. Mais je me mets dans la cohérence du récit biblique. Le récit biblique nous parle de Dieu en tant que créateur. Donc, Dieu en tant que créateur précède la création. Et par conséquent, si Dieu en tant que créateur précède la création, où loger la création? Puisque par définition, Dieu c'est l'être absolu, il n'y a pas de place pour autre chose. Est-ce que c'est clair? Je vous signale simplement une petite parenthèse, mais ne me laissez pas dedans. C'est, vous voyez ce que les chrétiens ont fait de cette notion du retrait de l'être de Dieu d'un point de son être pour laisser place au monde. Ils en ont fait finalement une notion absolument idolâtre de la mort de Dieu pour le salut du monde. Vous voyez le processus, okay? Et vous aurez toujours cette même expérience de voir qu'à la racine de toutes ces données chrétiennes, de la conscience chrétienne que nous repoussons comme idolatrique, à la racine, il y avait une parole juive, mais poussée, matérialisée dans une maquette de piété idolâtre. Hein? Nous ne sommes pas chargés, nous, d'expliquer aux chrétiens en quoi ils sont censés croire. Mais simplement, je vous indique ce que la pensée humaine non informée de l'expérience hébraïque, de ce qui est dit à l'origine par la tradition hébraïque, peut arriver à formuler des catéchismes complètement idolâtres à partir du judaïsme lui-même. Et malheureusement, ce n'est pas seulement le christianisme qui est sorti du judaïsme, c'est pratiquement toutes les idolâtries. Chaque fois qu'on pousse les choses dans une maquette matérialisée, grossière. Les chrétiens seraient très étonnés de savoir que oui, que c'est vrai, l'explication de ce qu'ils appellent les mystères de leur religion se trouve à la racine dans la tradition juive, mais dans un tout autre sens, avec cette grande différence que d'un côté il y a la prophétie hébraïque, de l'autre côté des idolâtries, dans le sens païen, c'est-à-dire des réalités spirituelles incarnées, comme ils disent. Est-ce que c'est clair ? Et là, on est obligé, comme je dis l'autre soir, parce que les choses sont... Il y a un esprit chrétien qui n'est pas content. Parce que les choses sont très délicates, on est obligé de marcher sur des œufs. Ce n'est pas une image quand je vous dis des œufs de Pâques, parce que c'est de ça qu'ils aiment. Alors, cette notion du retrait de l'être de Dieu d'un point de son être, c'est un chidouche de la tradition de la Kabbalah, et qui s'appelle Tzimtzum. La racine, c'est l'etzamtzem. Alors, ce terme de l'etzamtzem, Tzimtzum, a deux sens différents en hébreu. Premièrement, le sens qu'il a dans le vocabulaire talmudique, de l'hébreu rabbinique en général. Et deuxièmement, nous verrons le sens qu'il a dans le vocabulaire de la Kabbalah. Et ce n'est pas le même sens, c'est même un sens opposé. L'etzamtzem, premier sens, c'est contracter, rendre plus dense et faire occuper un espace plus restreint, contracté, l'etzamtzem. Okay. Par exemple, un tamtzit, c'est un concentré de jus de fruits ou concentré de n'importe quoi. Ça s'appelle un tamtzit. Okay. Concentré. Ça se concentration. Mais enfin, c'est le sens, de l'hébreu talmudique. Les tzamtem, ça veut dire densifier, faire occuper un espace plus restreint, récapituler, compresser, contracter. C'est clair ? Par exemple, on dira que la Shrina fera un tzimtzum dans le premier sens pour occuper un endroit dans l'espace du monde. Et cet infini de la Shrina, elle se metzamtzemet de telle sorte de pouvoir être entre les deux chérubins de l'arche du temple. Et on voit, quand on étudie les mesures du temple, que eh bien, cet espace n'existe pas dans notre monde, bien qu'il existe dans les mesures. Enfin, c'est un autre problème dont je ne voulais pas parler. Je veux dire ça très rapidement. L'espace dans lequel est située l'arche n'existe pas. Parce que nous avons... C'est le point de contact entre l'infini, l'éternité et notre monde spatio-temporel. Ce point de contact n'a pas d'épaisseur, n'a pas d'espace, tout ça. Parce que nous avons, voilà, le tabernacle en tant que les murs. Okay. Alors, nous avons cette distance et cette distance. Puis la Torah nous dit la largeur de l'arche, mais quand on additionne cette distance, on aperçoit qu'il n'y a pas de place pour la largeur de l'arche. Et pourtant, on nous donne ces trois distances, celle-là, 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 ensuite ces deux-là, et ces deux-là égale toute la ligne. Donc il n'y a pas de place pour celle-là. Et la Torah sait très bien qu'elle nous donne des mesures, les mesures qu'elle nous a données. Il n'y a pas une erreur de copiste, si vous voulez. Elle nous donne ces mesures-là pour nous faire comprendre que l'arche était là, mais pas dans l'espace de notre monde, mais dans une espèce de point de jonction entre ce que serait l'infini, chez Metzamtzemetratzmo, qui se contracte dans ce sens-là, la pointe du triangle, et qui est en contact avec notre monde des trois dimensions. Ce problème, si vous voulez, pour avoir une illustration de ce thème, c'est ce fameux mystère sur lequel les philosophes, et en particulier Descartes, Descartes non seulement dans le discours de la méthode, mais dans les méditations métaphysiques, se sont penchés. Comment comprendre le point d'insertion de l'esprit humain avec le corps humain? L'esprit est de l'ordre de l'infini, de l'ordre de la qualité, et il y a point de contact, point de jonction avec le corps, mais où et comment cela se passe? Il y a eu différentes théories sous forme d'hypothèses de la réflexion philosophique. Descartes a donné une indication, d'après lui, ce point de contact serait la glande pinéale. S'il y a des biologistes parmi vous, vous savez que dans le cerveau, il y a toute une série de glandes, hein. Et bien, il y aurait une glande qui, lorsqu'elle est excitée, titillée, déclencherait des émotions dans l'âme, comme dit Descartes, en fait des mouvements de l'esprit. Et inversement, lorsqu'elle est atteinte, et bien, ce que l'esprit a communiqué au corps ne passe plus, ne communique pas. Pour lui, ce serait la glande pinéale qui serait le point de jonction de ce qu'il appelle le parallélisme psychophysiologique, de ce que les modernes appellent le parallélisme psychophysiologique, c'est-à-dire les rapports entre l'esprit et, et le corps. Voilà, c'est ce problème-là, les rapports entre l'esprit et le corps. C'est, ça vous éclaire, c'est le premier exemple de Tzimtzum dans le sens talmudique. Exemple, c'était la shrina entre les kéroubim, la shrina entre les chérubins. Bon. Seul ce qui était présent voyait dans notre espace, cet espace sans espace, qui était l'endroit de l'arche. Et je vous donnerai peut-être un exemple très clair. En mathématiques, eh bien, on utilise des images, l'image du point, l'image de la droite. Mais nous savons très bien qu'au niveau de la réalité mathématique, un point n'a pas d'épaisseur. Et pourtant, il existe. Et voilà donc une réalité qui existe sans épaisseur. Okay. C'est lorsque ces êtres mathématiques s'incarnent dans l'être physique que je parlerai de l'épaisseur, mais pas de l'être mathématique, de l'être physique. C'est mon corps qui a une épaisseur. Et mon âme est dans une dimension spirituelle, autre, pas parler comme les auteurs de science-fiction, la quatrième dimension, en fait, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, peu importe, mais il est bien évident que ça fonctionne, puisque ça fonctionne. Que ça fonctionne, puisque je parle. Quand je parle, mon corps s'exprime. C'est donc que quelqu'un parle à travers mon corps. Ce quelqu'un, c'est moi. Et donc ce moi qui suis moi est accroché quelque part à travers mon corps, selon la tradition juive, tout le corps. Et bien sûr, il y a des moments, il y a des endroits privilégiés, qui sont le foie, le cœur, le cerveau. Si vous voulez retenir ça sous forme mnémotechnique.
Le cerveau, c'est ça, ça se dit moar.
Moar.
Le cœur, lèvre. Et le foie, kaved. Et alors retenez le mot meler.
Meler. C'est même, lamed, kaf.
Il n'y a pas de là.
Et alors, l'insertion de ce monde que j'appelle mon esprit, mon âme, et ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est le même monde, eh bien, se fait à travers tout mon corps, toute la peau, tout, mais à des niveaux différents de dignité. Les niveaux différents de dignité qui sont finalement le kaf, le lamed et le même de Moar, Lev, Kavet. Là apparaît une fonction royale de l'âme par rapport au corps. Bien. Et lorsque c'est moi qui suis maître de mon cerveau, de mon cœur et de mon foie, je suis Meler. Si c'est mon cerveau, mon cœur, mon foie qui sont maîtres de moi, je suis Evet. Je vais à peu près là.
Cloum, non ?
C'est ça, Cloum. Joli.
À l'inverse.
Exactement. Très joli. C'est un lapsus calami. Non, c'est pas un lapsus. Cloum, c'est la calamité. Bien. Et ça, c'est donc le premier sens du mot de Tzimtzum. Bien. Mais la Kabbalah va nous utiliser un deuxième sens, complètement opposé du mot de Tzimtzum, pour répondre à la question comment faire apparaître la place du monde. Quand je dis la place, l'endroit, l'espace, c'est pas en termes spatiaux, c'est en termes d'être, une place d'être, pour que soit logé ce monde que Dieu veut créer. Vous vous rappelez de la difficulté de départ. C'est l'existence du monde qui est l'impossibilité pour la problématique de la pensée de la Kabbalah. Qu'un monde existe, c'est cela qui fait problème. Je vois ici un petit schéma, ça intéressera peut-être ceux qui s'intéressent un peu à la philosophie et à la théologie. Le problème du philosophe, c'est à quelles conditions l'idée d'homme doit répondre pour qu'elle soit vraisemblable, pour qu'il soit vraisemblable qu'un homme existe. Et ça, c'est tout le problème de la philosophie. Le problème de la théologie, c'est à quelles conditions l'idée de Dieu doit répondre pour qu'elle soit vraisemblable et que nous puissions admettre qu'un Dieu existe. Eh bien, la Kabbalah ne connaît ni ce problème-là, ni celui-là. Elle peut, étant donné sa propre connaissance, aider le philosophe ou le théologien à y voir clair dans leurs problèmes, mais ce n'est pas les problèmes de la Kabbalah. La perplexité du kabbaliste n'est pas la perplexité du philosophe, ni la perplexité du théologien. Pour le dire en d'autres termes, elle considère la tradition de la Kabbalah, le problème de la philosophie, le problème de la théologie, que je répète brièvement, à quelles conditions l'idée de l'homme doit répondre pour être vraisemblable, pour être vrai, dirait Descartes, à quelles conditions l'idée de Dieu doit répondre pour être vrai, dirait Kant, eh bien, la Kabbalah ne connaît pas ces problèmes-là. Elle les considère comme des problèmes d'enfants, comme des problèmes infantiles, comme des problèmes, si vous voulez, de pré-sagesse. Parce que son problème, à elle, est beaucoup plus sérieux. Comment se fait-il qu'un monde existe ? Que l'homme existe, ça va de soi pour un kabbaliste. C'est l'homme qui pose les questions, donc il existe. Est-ce qu'il y a ici place pour faire toute une histoire de ce qui s'appellerait l'histoire de la philosophie ? Et puis, quand Dieu existe, ça va de soi. Si déjà moi j'existe, alors à plus forte raison, c'est vrai que Dieu existe. Nous avons vu ça avec Abraham lundi matin, vous vous rappelez ? Et le kabbaliste considère ces espèces de façons sérieuses de poser ces problèmes-là, la philosophie, la théologie, comme vraiment de l'infantilisme. Je ne voudrais pas être trop méprisant au niveau des mots, mais on sent ces problèmes-là ne se posent à aucun kabbaliste, dans aucun ouvrage de Kabbalah, aucun... Tradition de Kabbalah, on parle de ça. C'est pas sérieux de poser des problèmes pareils. C'est une fois ces deux évidences intégrées, l'homme existe, Dieu existe, alors le vrai problème apparaît. Comment se fait-il qu'un monde existe ? Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Parce que ou bien ce monde, c'est Dieu, ou bien ce monde, c'est l'homme. Et j'explique ces deux formules. Ou bien ce monde, c'est aussi Dieu. Et alors, il s'agit du panthéisme, okay, qui a supprimé la question en l'évanouissant. Parce que le panthéisme sait très bien que le monde, même en tant que Dieu, c'est pas Dieu en tant que Dieu. C'est Dieu en tant que monde. Et par exemple, vous prendrez dans Spinoza, qui n'est pas exactement panthéiste, mais pananthéiste, enfin c'est la même famille spirituelle, qu'il sera obligé de parler de nature naturante et nature naturée. Et on sait très bien que Dieu c'est la nature, mais il y a un aspect de ce Dieu qui est la nature, qui n'est que la nature naturée. C'est-à-dire c'est une espèce d'évacuation verbale du problème finalement. Dieu en tant que nature. Oui, mais Dieu en tant que nature, c'est pas la même chose que la nature en tant que Dieu. Je vais trop vite, peut-être. Non, mais voyez comment le problème se pose. C'est-à-dire, ou bien le monde fait partie de Dieu, et on a supprimé le problème en renvoyant un mystère supérieur à la philosophie, alors comment se fait-il que l'homme existe ? Okay ? Si tout est Dieu. Et alors l'homme existe, puisqu'il pose ses problèmes. Ou bien le monde fait partie de l'homme, et c'est ce qu'on appelle la philosophie idéaliste. C'est-à-dire pour qui le monde extérieur...